BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, il y a trop de ponts en mer alors que la France ne travaille pas assez. Alors, j'arrive pas à comprendre. D'un côté, on dit qu'on travaille pas assez. De l'autre côté, il y a des ponts. Bah, nous, on est là quand même, hein. Et moi, j'ai trois bonnes raisons et trois bonnes nouvelles d'être là. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Encore une semaine où il s'est passé un tas de trucs absolument incroyables sur, évidemment, l'économie, la finance, votre argent. Marqué avec Donald Trump. On peut pas s'ennuyer. Il se passe quelque chose. Tous les jours, il n'y a pas que lui, avec François Bayrou aussi. Non, présente. Alors, au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine à l'Allemagne, la question macro, les droits de douane. On va essayer de se projeter un peu parce qu'on commence à voir ce qui va se passer. On va en parler du deal avec la Grande-Bretagne. Bon, une fois que tout sera passé, est-ce que finalement l'existence de ces droits de douane va créer une croissance beaucoup plus faible pour le monde? Et est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle? On va en parler tout à l'heure. On va parler évidemment du deal. Ça sera le chiffre de la semaine, 10%, ça semble être maintenant le tarif minimum de droits de douane. Alors, minimum, hein, parce qu'il a dit que là, c'était pour les copains, la Grande-Bretagne, c'est un copain, mais pour les autres, ça sera pas 10%. C'est la négociation avec la Grande-Bretagne qui a abouti, le premier des deals. En deuxième partie de l'émission, on va parler de l'élection du nouveau pape. Non, on va parler de l'évolution de la bourse dans le contexte de ces deals qui vont être annoncés. Quelle allocation d'actifs dans cette tempête? Quel placement privilégié? Le top ou le flop de la semaine? Le top 3 des gérants, est-ce qu'un des gérants qui est sur le plateau est dans le top 3? Vous le saurez en deuxième partie de l'émission, les actions à acheter ou vendre. Mais pour une émission exceptionnelle, exceptionnel, je sais pas, mais il faut des invités exceptionnels, ouais, si, quand même. J'ai le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Alors lui, il devrait présenter chez nous l'émission. Il y a une émission, Pierre, qui s'appelle La France a tout pour réussir. Bon, alors c'est vrai qu'on a quelqu'un qui la présente qui est très, très bon. Excellent, qu'on salue d'ailleurs. Mais bon, si un jour vous voulez faire le Joker quand il part en vacances.
Pourquoi pas,
hein. D'accord, parce que alors Pierre, la France, faut pas toucher la France pour Pierre.
Mais par contre, là où vous avez raison, c'est qu'on travaille moins qu'ailleurs en France.
Ah, quand même. Mais alors il va me dire, mais attention, ça c'est une question, hein, mais la productivité est meilleure, c'est
c'est pas les ponts en fait, ce sont les 35 heures qui ont fait le décalage, voilà.
Mais par exemple, si on supprimait. Trump a dit, voilà, moi je veux faire des commémorations, il n'y a pas de raison que les autres fassent des commémorations pour les fins des guerres, puisque les guerres, c'est nous qui les avons gagnées, bon, ça le dixit Trump, mais. Je vais faire des ponts, je vais faire des célébrations, commémorations, mais pas de jours fériés. Parce qu'on a besoin de travailler. Puis c'est pas totalement absurde, non?
Non, pas tout à fait.
Alors lui, c'est un des gourous favoris de la communauté BFM Business, entre autres, et d'autres communautés, Wilfried Galland. Ça vous fait quoi d'être une vedette quand vous arrivez ici dans les couloirs, tout le monde vous serre la main? Et vous êtes plus connu que moi, ce qui m'énerve en fait.
Justement, quand je vous regarde, je me sens humble. Ça, c'est formidable.
Ah, c'est bon alors. Vous êtes directeur de la stratégie chez Montpensier Herbevel, mais pas que ça, non?
Et aussi directeur général adjoint.
Ouais. Dites-le ça. Pourquoi on me le dit pas ça? J'ai obligé de l'apprendre par la rumeur dans la rue.
Question d'humilité. Toujours la question d'humilité.
Donc c'est vous le patron.
Adjoint. L'important dans les trois lettres, c'est A. C'est adjoint.
Non, mais en fait, c'est vous le Kaiser Soze, les autres, c'est des marionnettes, quoi.
Oui, alors c'est vraiment totalement en coulisses. Hein. Mais à la limite, je me demande même si j'ai encore totalement les manettes,
vous
voyez.
Est-ce que vous connaissez Uzès? Eh bien, là-bas, il y a une femme qui connaît par cœur les valeurs cotées. Vous savez comment on l'appelle? Bon, on l'appelle la financière d'Uzès. Et c'est Stéphanie Mauger. Bonjour, Stéphanie.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
En pleine forme?
En pleine forme.
Il sait tout faire, de l'économie au culturisme, en passant par l'élevage de chats. Alors, vous allez m'expliquer pourquoi il y a un problème sur les chats, non? Je vous ai envoyé un message sur les chats, vous m'avez dit il n'y a pas de chat.
Bah, que c'était dommage, hein. Vous avez fait une bonne émission.
Il va bien quand même, votre chat.
Il va très bien.
Ah non, vous m'avez fait peur.
Il a dormi avec moi, ça s'est bien passé.
Ah bah. Non, parce qu'il m'a envoyé un message, je faisais une blague sur les chats, il dit bah non, pas de chat. Je me suis dit,
c'est gentil, vous êtes inquiété.
Mais là, je me suis dit, j'ai fait une gaffe, c'est comme comment vont tes parents? Ils sont morts depuis 2 ans. Donc, je me suis dit, c'est super. Ouais.
Non, il va bien.
Il va bien. Bon, voilà, vous me rassurez. Je me suis dit que j'avais fait une gaffe comme j'en fais régulièrement.
Une blague au laser.
Ouais, exactement. Elle est pas mal. C'est une brave joke. Hein. On expliquera. Vous m'envoyez un message, je vous expliquerai. Il est conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Oui. Toujours?
Toujours, tout à fait.
Allez, on démarre tout de suite par l'Allemagne parce que j'avais envie d'en parler avec vous. Merz est donc le nouveau chancelier allemand, faux départ, donc les Français sont précipités pour dire « Oh là là, vous avez vu, l'Allemagne, c'est comme la France, c'est ingouvernable, il n'y a pas de majorité ». Bon, on rappelle quand même que c'était un vrai faux départ, hein, puisque une nomination à 2 tours, on n'avait pas connu ça en 80 années d'Allemagne. Quelle est la situation Wilfried. D'abord, un, est-ce que c'est une vraie mauvaise nouvelle ou est-ce qu'on peut comparer la situation française à la situation allemande? Et deux, quelle est la situation économique en Allemagne?
Alors, la situation politique en termes d'équilibre est quand même beaucoup plus favorable en Allemagne qu'en France. Hein. On a clairement une majorité qui est identifiée. Alors, elle est effectivement fragile. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on voit la fragilité. La très mauvaise nouvelle, c'est effectivement qu'il avait normalement 328 voix. Il en a eu 310 au premier tour. Et je trouve la pire nouvelle, c'est qu'il en a eu 306 contre lui. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de sa coalition, il y avait au premier tour des gens qui non seulement se sont abstenus, mais qui ont voté contre.
Donc là, on rappelle que la coalition, c'est deux partis pour l'instant.
Exactement. Mais il a la possibilité, effectivement, sur certains sujets, d'associer les Verts. Et puis il a quand même, contrairement à la France, une véritable majorité absolue sur la coalition. On a vu au deuxième tour que c'est passé assez.
Donc on oublie la comparaison qui fait plaisir aux médias français.
Voilà, exactement. Ça reste effectivement un point de fragilité pour peut-être un certain nombre de réformes. Et justement, la question profonde de l'Allemagne, c'est est-ce qu'ils vont réussir à résoudre leur déséquilibre numéro un, qui est le fait qu'il y a trop d'épargne privée en Allemagne qui n'est pas compensée par de l'investissement public. En fait, c'est ça le vrai sujet allemand. C'est-à-dire que les ménages ont un taux d'épargne extrêmement important, on est à 20% de
taux d'épargne. Donc ils ont un taux d'épargne qui est supérieur au nôtre ?
Voilà, ils ont un taux d'épargne qui est supérieur au nôtre. Okay. Les entreprises investissent moins qu'elles investissaient, et donc, normalement, dans des équilibres économiques, vous devez compenser en faisant des déficits publics, pour qu'effectivement, il y ait...
Sauf qu'ils étaient coincés par cette fameuse règle.
Voilà, sauf qu'ils étaient coincés. Et donc, la question, c'est maintenant, est-ce qu'ils vont réussir, au-delà d'avoir fait sauter la règle, à véritablement mettre en place un plan de relance des infrastructures, à investir peut-être davantage en innovation, un des sujets allemands... Dans l'armement, mais un des sujets allemands, c'est ils investissent certes en R&D de façon tout à fait correcte, à peu près 3% du PIB. Alors c'est moins que les États-Unis, mais au niveau européen, on est pas mal. En revanche, quand on regarde la partie private equity, la partie venture capital, donc vraiment le financement du démarrage des entreprises privées, là on est à 0,09% du PIB en Allemagne.
D'accord.
C'est 3 fois moins que la France, c'est 8 fois moins que les États-Unis. Donc vraiment, il faut accélérer là-dessus. Il faut qu'on ait cet environnement pro-business en Allemagne, qui n'est pas encore complètement le cas. Donc, on attend effectivement de Friedrich Merz plus de simplification, peut-être plus effectivement d'investissement direct dans les infrastructures, dans la défense. Ça devrait pouvoir se faire. Voilà, le démarrage est un peu compliqué. Et puis, il a aussi une cote de popularité qui est quand même très faible pour démarrer. Il a 70% des gens qui considèrent que c'est pas un bon premier ministre.
C'est un sujet, ça, ou pas? Oui, quand même.
En fait, ça le fragilise au démarrage. Maintenant, il va falloir qu'il trouve effectivement des alliés et montrer que ça avance.
Comment est pour bondir l'Allemagne ? Aujourd'hui, on est d'accord, hein, années de récession, années de croissance négative, une année attendue à zéro, des signes d'amélioration. Je rappelle quand même, on parle pas de bourse tout de suite, mais que le DAX a fait un nouveau record. C'est étonnant parce que les gens nous écoutent, on parle de l'Allemagne totalement à l'arrêt, et puis d'un autre côté, une bourse qui est au plus haut. Aujourd'hui, est-ce qu'elle a les moyens financiers de rebondir ? Est-ce qu'elle va rebondir et comment elle va rebondir ?
Ça va être une longue traversée du désert.
Ah oui.
Parce que vous l'avez à juste titre, c'est pas une situation qui est complètement désastreuse en Allemagne. Si vous regardez par exemple la production industrielle, on a quelques éléments bien sûr avant la mise en place éventuellement des tarifs de Trump, où la production industrielle sur les chiffres de mars, elle a commencé à redémarrer. Alors certes, on part d'un bas niveau parce qu'on est 9% inférieur par exemple à la tendance d'avant Covid. Toutes les séquelles finalement de la crise qu'on a pu connaître, crise énergétique, guerre en Ukraine, etc., on le voit que ça continue d'impacter les entreprises. Le coût de l'énergie est un problème pour certaines entreprises, plutôt les petites et moyennes entreprises.
Pourtant, il a baissé.
Il a baissé, mais il reste quand même supérieur à la moyenne d'autres pays européens, notamment à la France où effectivement c'est beaucoup plus bas. Et surtout, le point qui va être important, c'est que quand le nouveau gouvernement allemand a présenté son plan de relance, tout le monde a applaudi des deux mains, se disant effectivement, ça va être, l'Allemagne va très rapidement rattraper
le
retard.
Premier.
Tout à fait. Le problème, c'est qu'une grande partie des mesures qui sont annoncées, notamment sur les infrastructures, c'est surtout du rattrapage pour l'économie allemande, avec assez peu d'externalités positives sur le reste de l'économie. Donc la problématique allemande, c'est effectivement, il faut que l'État investisse, mais là, il va investir sur les infrastructures, ce qui ne va pas relancer la dynamique économique tant que cela. Il y a très peu d'externalités positives. Et l'autre côté qui a été évoqué, qui est à juste titre sur la R&D, vous avez un problème allemand qui est aussi
recherche
la forte...
Recherche et développement,
voilà,
l'investissement
merci.
Dans le, ce que disait...
qui est très dépendant du secteur automobile. On constate qu'à peu près 15% de la recherche et développement est liée au secteur automobile, qui est bien évidemment à la traîne, à la concurrence chinoise, on aura les tarifs douaniers aussi, Trump qui vont s'ajouter, etc. Donc c'est un secteur qui est fragilisé. Il va falloir beaucoup de temps, mais le gouvernement, en tout cas, a au moins les manettes financières, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pression particulière pour réduire l'endettement.
Stéphanie, vous investissez en Allemagne ?
Alors, un peu plus indirectement par les sociétés françaises qui, elles aussi, ont expliqué que ça allait prendre du temps. Dans l'ensemble, on a des sociétés dans l'industrie qui ont dit que le plan de relance allemand, c'était 2026, peut-être même encore un peu plus tard. Des Jacquet, des Vinci, des Bouygues, toutes ces sociétés-là ont beaucoup rebondi à la suite de ces annonces. Et c'est vrai qu'elles profiteront et on a des leaders dans ces secteurs. Donc, on peut très bien jouer la croissance allemande via les sociétés françaises.
Pierre, est-ce que notre avenir économique dépend de l'avenir économique de l'Allemagne
par ce effet
de ruissellement?
Nous, on trouve beaucoup de pépites en Allemagne.
Ouais.
Pour nous, ça reste comme un vivier pour trouver des belles entreprises importantes en Europe avec la France et le nord d'Italie. Maintenant, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est le fait que l'Allemagne s'est bâtie sur un modèle d'exportation.
Oui.
Avec quand même un certain conservatisme dans le modèle, c'est-à-dire assez domestique, avec beaucoup d'employés domestiquement. Et j'ai vu, il y a pas mal de secteurs maintenant, dans le secteur automobile, qui commencent à délocaliser des ressources en Inde en particulier, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps. Et ça, c'est Alten, par exemple, qui nous parle de ce phénomène. Et ça, c'est nouveau. Donc je pense que déjà, le tissu productif allemand doit évoluer, doit se réinventer. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ensuite, ils doivent trouver des nouvelles débouchées à l'export, quoi, parce que c'est leur modèle. Là, maintenant, on voit qu'il y a des portes.
Ils avaient une solution. Un peu de facilité qui était le.
Exactement. Non, maintenant, bon, là, ils essayent de lancer des ballons d'essai en Inde, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, moi, je suis assez d'accord avec Christopher. Je pense que ça va prendre du temps.
Vous pensez que ça va être
Il y a une possibilité, mais ça va prendre du temps.
Wilfried, notre croissance européenne, elle dépend d'eux quand même ou pas?
Oui, largement. Bah,
largement.
C'est 20% du PIB européen. Donc, si vous avez 20% du PIB européen à l'arrêt, c'est quand même compliqué. Ouais.
Donc, on peut avoir l'espoir que. Vous partagez l'avis de Christopher que ça va être long?
Je pense que ça va être en tout cas c'est un effort de plusieurs années, ça c'est évident, parce que en fait la façon dont les Allemands ont bâti leur plan, c'est pas un plan à la française où j'injecte directement dans la demande.
C'est pas des chèques qu'on envoie, pas un bouclier tarifaire.
C'est véritablement, comme disait Christopher, c'est l'investissement du moyen terme, et donc il faut le temps que ces investissements génèrent ces fameuses externalités. Il va falloir effectivement un peu de temps, mais comme vous le disiez, il y a quand même beaucoup, beaucoup de ressources en Allemagne. Il y a une capacité aussi des Allemands à générer dans le tissu industriel aussi de plus en plus de nouvelles sociétés. On voit quand même ça se régénère de plus en plus en Allemagne.
Et il y a un consensus social,
donc ils ont quand même des atouts qui sont importants.
Allez, on va passer tout de suite aux droits de douane. Ça y est, on commence un peu à voir, enfin je pense, on va en parler ce qui se passe. On va parler tout à l'heure du deal britannique. Moi, la question que je me posais, c'est, on sait à peu près qu'on va avoir, je pense, des deals avec tout le monde, y compris l'Union européenne, y compris la Chine, ça demandera plus ou moins du temps. On va avoir donc, on voit des taux de 10 à 15%, voire 20, et puis des produits exemptés. Est-ce que tout ça, y compris la période qu'on vit actuellement, où une partie de l'économie mondiale est à l'arrêt, on l'a vu, les exportations chinoises vers les États-Unis en chute libre, nous, on est à l'arrêt pour d'autres raisons, l'Allemagne est à l'arrêt, les droits de douane ont amplifié le phénomène, Christopher, est-ce qu'on va vers un ralentissement durable de la croissance mondiale, du fait des droits de douane?
Alors, ralentissement, oui. Durable, probablement pas. Je pense que ce sera pas complètement linéaire. En fait, la question avec les tarifs, la taxe douanière, c'est qu'on se dit, c'est automatiquement une croissance qui va être beaucoup plus faible et automatiquement de l'inflation. Je vous donne un exemple parce qu'on commence à avoir plus de chiffres sur l'inflation que sur la croissance. Mais sur l'inflation, par exemple, aux États-Unis, bien évidemment, il y a des pressions inflationnistes liées aux tarifs douaniers. Mais un élément, par exemple, qu'on n'a pas anticipé, c'est que finalement, sur d'autres poches qui sont très importantes dans le calcul de l'inflation, vous avez une baisse. Notamment, vous avez une baisse au mois d'avril sur tout ce qui est hôtel, frais billets d'avion, parce que finalement, une des conséquences qu'on ne pouvait pas anticiper des tarifs douaniers, c'est qu'il y a beaucoup moins de touristes qui aillent aux États-Unis. Donc, c'est pas non plus linéaire.
Il y a l'énergie aussi.
Il y a l'énergie également qui baisse. Donc, tout n'est pas complètement linéaire. C'est pour ça que c'est très dur. Et d'ailleurs, au cours de cette semaine, on a eu le chef de la Banque Centrale Américaine qui disait wait and see, parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas une vraie visibilité sur quel va être l'impact très précis. Certes, il y aura des pressions inflationnistes.
Il ne dit pas tout à fait ce que vous dites. Lui, il dit qu'il va y avoir des pressions inflationnistes. Oui. C'est pour ça que je baisse pas les taux.
Mais
parce qu'on rappelle pour les gens qui nous écoute que la Banque Centrale Américaine s'est réunie cette semaine et qu'elle n'a pas baissé les taux.
Mais à quel niveau vont être les pressions inflationnistes? C'est ça tout le problème, parce que de l'autre côté aussi, vous aurez des consommateurs, par exemple les Américains ou d'autres, lorsque vous aurez des taxes douanières, si vous avez des substituts locaux, vous allez potentiellement pouvoir aller sur les substituts
donc
locaux.
Donc vous ne dites pas tant d'inflation que ça et pas forcément un ralentissement de la croissance.
Pas forcément
aussi
un ralentissement
fort,
de la croissance.
Pas durable, en
exactement.
Tout cas.
Et on peut tout à fait anticiper. La Chine commence à discuter en interne de mesures de soutien de son marché. Il y aura certainement des annonces. Il y a déjà des baisses
ils
de taux annoncées.
Déjà,
il y a
peu.
Des baisses de taux annoncées. Ouais. Il y aura sûrement d'autres annonces dans les prochaines semaines. Donc il y aura aussi des éléments qui vont permettre de contrebalancer l'effet négatif initial.
Wilfried, ralentissement ou pas?
Je pense moi ralentissement
durable.
En économie, il y a un terme magique qui s'appelle toute chose égale par ailleurs. Et effectivement, toute chose égale par ailleurs, on va avoir un ralentissement pour moi assez net en fait de la croissance mondiale. Mais ça ne veut pas dire que dans les chiffres, on va pas croître de façon quand même significative. Simplement, on a une perte de chance. Avec ces droits de douane, parce qu'on crée des frictions là où il n'y en avait pas, parce qu'on va avoir des pertes d'efficacité, en particulier dans l'économie américaine. Les droits de douane, si en particulier ils se déploient dans le monde, agissent comme des hausses d'impôts. C'est exactement la même chose. Et donc, vous augmentez le niveau d'impôt, le niveau de prélèvement obligatoire sur l'économie mondiale, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes en train d'abaisser la croissance potentielle de l'économie mondiale. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir une croissance qui va être négative. Ça ne veut pas dire qu'on va tomber en récession.
Mais
plus basse que ce qu'on aurait pu avoir. En fait, Trump, non seulement se tire une balle dans le pied, ça c'est très clair, mais il est quand même en train de tirer une petite balle dans le cuisseau de pas mal de gens. Ouais.
Alors, c'est là où je suis pas du tout d'accord avec vous, parce que est-ce que le fait d'avoir un peu moins de croissance, si c'est pour avoir une croissance qui est peut-être plus équilibrée, c'est-à-dire que si c'est pour avoir de la croissance qui est alimentée par la consommation, qui alimente des importations, qui alimente le déficit de la balance commerciale, donc le déficit de la balance des paiements et qui donc appauvrit le pays, est-ce que c'est une bonne solution?
Alors, c'est
le modèle français. Et il marche pas.
Non, c'est amusant effectivement de raisonner comme ça. C'est un joli raisonnement mercantiliste du XVIIe siècle.
C'est la période à laquelle j'ai étudié.
Voilà, je vous en félicite, Marc. Mais un déficit de balance des paiements, ça veut pas dire que le pays s'appauvrit. Ça veut dire qu'en fait, vous recyclez.
Je vais vous envoyer Jean-Marc Daniel.
Non, mais oui. Jean-Marc Daniel, en fait, oublie dans son raisonnement un élément qui est considérable, c'est que si vous voulez résoudre effectivement votre problème de balance des paiements. Vous mettez votre pays en récession alors que tout le monde croit. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous résolvez votre problème de.
Ouais.
Et donc, vous allez dire à votre peuple qu'en fait, ils vont être moins prospères et moins riches. Et en fait, que ça va être vachement bien parce que vous n'allez plus avoir de balance des paiements déficitaires.
C'est pas ce qu'on dit. On peut dire qu'on peut réorienter son mode de fonctionnement. On parlait du moteur de la Chine qui était les exportations et pas la consommation. On peut être moins orienté vers la consommation qui appauvrit le pays.
Tout à fait.
Et plus.
Et vous avez le droit d'être plus pauvre. Mais c'est votre choix.
D'accord. Le fait de passer par une période de difficultés, non.
C'est de la flûte absolue.
Je pense aussi qu'il faut rajouter quand même.
Vous pensez que c'est de la flûte aussi ce que je raconte? C'est pas grave, de toute façon, Wilfried reviendra plus.
Il faut déjà regarder la composition de la balance des paiements. Et aussi, on voit qu'il y a plein de phénomènes à l'heure actuelle qui sont liés tout simplement à la guerre tarifaire. Par exemple, le déséquilibre commercial américain qui est notamment lié aux importations massives de lingots d'or. Donc, il y a énormément d'éléments qu'il faut regarder la structuration.
D'accord, mais sur la tendance, on voit bien qu'il y a des pays comme l'Allemagne et le Japon qui ont des surplus
aujourd'hui le modèle
américain, sommes dans le vent.
L'idée de Trump, c'est de se dire que notre modèle américain, il est dépendant du financement des étrangers. On souhaite effectivement que ce financement, il vienne plus au niveau interne. D'où le fait que notamment, il ne voit pas ça particulièrement d'un aspect négatif, qui est éventuellement des investisseurs étrangers qui se délaissent de bons du trésor américain, parce que dans le pire des cas, il y aura soit les locaux, soit la Fed. Mais ce raisonnement n'est pas complètement aberrant. Et il y a un autre élément qu'il faut rajouter, c'est qu'il faut aussi faire confiance à l'expérience Covid pour les entreprises. Je vous donne juste une petite histoire rapide sur Apple. Au mois de janvier, Apple avait besoin d'une machine qui était présente en Chine pour le fonctionnement de l'iPhone 17. La Chine a refusé, cadre de la bataille commerciale. Qu'est-ce qu'a fait Apple? Ils ont créé une société écran dans un pays d'Asie du Sud-Est. Cette société écran a acquis la machine, qu'il a ensuite exportée en Inde ou dans l'usine Foxconn pour l'iPhone 17. Donc aussi, il faut faire confiance quand même à la capacité d'adaptation des entreprises. Parce que dans le même temps, la réalité, c'est que la bataille commerciale, elle est politique et aucun, notamment Chine et États-Unis, ne souhaite un arrêt complet des échanges. Là, effectivement, ça baisse, mais il y a quand même des relations qui perdurent.
Et vous pensez que le fait de s'appauvrir, pour reprendre le terme de Wilfried, pour s'enrichir plus tard, c'est pas une bonne méthode?
Peut-être parce que je fais beaucoup de sport, mais je pense qu'on ne peut pas atteindre l'excellence sans un effort, donc sans de la souffrance. Mais...
Voilà. Allez, on passe tout de suite au chiffre de la semaine. J'ai retenu 10%. C'est juste un chiffre, c'est le deal commercial avec la Grande-Bretagne, 10% minimum, mais des exonérations sur plein de trucs, hein, finalement, des exonérations sur l'acier, sur l'aluminium, des exonérations dans l'autre sens sur l'éthanol plus consommé par la Grande-Bretagne. Ça nous dit quoi, ce deal britannique? Avec l'Angleterre. D'abord, est-ce que ça nous dit qu'il va y en avoir plein avec tout le monde ?
Alors non, pas nécessaire. En tout cas, pas rapidement. Mais en tout cas, ce que ça dit clairement, non. En tout cas, non. Mais va y avoir des deals, hein, c'est sûr. Mais ça prend du temps. Mmh. Ça prend du temps parce que vis-à-vis de la Grande-Bretagne, c'est simple en fait. Si on se concentre sur l'excédent des biens, il y a quasiment pas d'excédent. Voire pour certaines années, il y a un excédent américain vis-à-vis de.
C'est pour
de
ça qu'il a dit c'est un pays ami.
Bah donc c'est pas.
Il
c'est
a
pas
dit
dur.
10% c'est le tarif minimum voilà, parce que vous êtes des potes.
Exactement, donc c'est pas dur. En revanche, effectivement, ce que ça nous apprend de façon très claire, c'est que 10%, vous l'avez très justement souligné.
Merci. Bah,
et je vous en félicite. 10%, c'est un plancher.
Je vous reviendrai pas quand même.
Mais désormais, c'est pas grave. Il y a plein de gens beaucoup plus intelligents que moi. Vous allez voir. En fait,
10% c'est un minimum.
On a véritablement maintenant atteint le point où on sait qu'on a un plancher. Et ouais. Ça, pour les marchés, finalement, c'est, on y reviendra plus tard, mais pour les marchés, c'est un vrai point rassurant, y compris pour les entreprises, de dire, ben voilà, on va dire que ça va être 10%. La vraie question derrière, fondamentale, c'est Chine, États-Unis.
C'est ça.
Et en fait, si on fait Chine, États-Unis, c'est un point.
Ils se voient ce week-end. Hein. Ils sont en train de parler à l'heure où on parle.
Voilà. Mais là, on touche le point central du raisonnement de Trump. Est-ce qu'il va être capable de faire un deal ?
Et votre réponse ?
Ça va être compliqué sans au moins faire un tout petit pas en avant vis-à-vis des Chinois qui veulent ne pas perdre la face par rapport à leur population. Les Chinois sont devenus un peuple beaucoup plus politique qu'économique. Et donc, il va falloir reconnaître ça et donc faire un petit mouvement de négociation.
Mais il a commencé, débloquer. Il a dit, avant même des négociations.
Donc, je pense que c'est possible, ça prendra un peu de temps quand même.
Que nous dit le deal britannique sur les deals à venir ?
Deux aspects. Il y a un aspect qui est purement cosmétique, parce que notamment les services ne sont pas inclus a priori dans ces négociations, et ça va être quand même un élément qui va être important. C'est une victoire pour les Américains, parce qu'ils s'en sortent très bien. Ils ont effectivement l'éthanol et le bœuf américain qui va arriver au Royaume-Uni. Alors, soi-disant, selon les standards sanitaires britanniques, mais on sait que c'est très dur en termes de traçabilité. Et de l'autre côté, et l'autre point qui est important, c'est que ça confirme quand même quelque chose. Nous, Européens, en tout cas Europe occidentale, continentale, pardon, on a toujours eu cette impression que finalement le Royaume-Uni allait se rapprocher de l'Europe. La réalité, c'est que l'objectif, peu importe d'ailleurs la couleur politique du gouvernement britannique, c'est toujours d'être très proche des États-Unis. Ouais. Ils ont absolument souhaité négocier très rapidement ce deal qui n'est pas avantageux pour eux, hein, très clairement.
Parce pour être les premiers.
Pour être les premiers, pour avoir l'avantage concurrentiel par rapport aux autres Européens.
Stéphanie, comment vous intégrez tout cet environnement de droits de douane pour les résultats des entreprises ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, bon, ben là, il faut que je baisse mes prévisions de résultats parce que, avec les droits de douane, il va y avoir des coûts, notamment en matière importation, qui vont être plus élevés ?
Oui, alors d'abord, on a quand même pas su grand-chose pendant une longue période. Hein. Et d'ailleurs, est-ce qu'on découvre juste qu'on va avoir 10%.
C'est le premier deal.
Hein, donc ça, c'est le premier deal. Donc je pense qu'effectivement, il y a comme une espèce d'effet de soulagement. Les entreprises, moi je parlais effectivement à des gens chez le VMH, etc. Eux, ils avaient plutôt tablé sur 20%. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui va se passer.
Ouais.
Et finalement, 10%, si c'est le plancher, ça va peut-être être un peu un soulagement. Donc c'est vrai que je pense que dans l'ensemble, les sociétés et nous, analystes gérants, on a plutôt été dans une attitude d'attentisme en se disant finalement quelles sont les sociétés qui sont sur les bons marchés. Et effectivement, toutes les publications du premier trimestre, très peu de sociétés nous ont dit on sait ce qui va se passer, on est confiant et ça n'aura pas d'impact. En fait, personne ne sait hein, encore. Il y a quelques sociétés, Ruby par exemple, qui nous a dit pas d'impact, mais évidemment, ils ne sont pas aux États-Unis, ils ne sont pas en Chine. Donc,
ça aide.
Voilà, donc ça aide, hein, évidemment, mais néanmoins, des comme ça, il n'y en a pas beaucoup.
Pierre, est-ce que là, à partir de ce deal britannique, vous allez reprendre, par exemple, les prévisions sur certaines sociétés, vous dire, bon, bah, je projette, Stéphanie nous disait jusqu'à présent, on n'avait pas de chiffres, là, on commence à avoir des chiffres, on va dire, c'est entre 10 et 20%, 10 pour les potes et 20 pour les gens qui ont un gros surplus avec les États-Unis.
Ah ouais, là, je pense que là, ce qui va se passer, c'est comme il va y avoir d'autres accords, on a un premier, il y en aura d'autres, alors est-ce que ça va prendre plus ou moins de temps ? Bon, ça reste à définir, mais en tout cas, le pic d'incertitude est passé, et maintenant, on va faire quelque chose où on a un peu moins de risque. Donc, il y a davantage d'appétence pour le risque. Au fur et à mesure que les deals vont être signés, les entreprises vont pouvoir se projeter davantage dans l'avenir avec de manière plus claire. Est-ce que je construis une usine aux États-Unis ? Est-ce que je reste en dehors ?
Mais voilà. Vous allez intégrer ça comment ?
Non, moi, je pense que sur le marché, si vous voulez, on anticipe.
D'accord.
Et là, déjà, on a anticipé déjà un de-risking déjà. Donc, les marchés sont remontés. Maintenant, on est juste quelques pourcents en dessous des niveaux avant le Liberation Day. Donc, je veux dire, comment on l'intègre ? Moi, je pense qu'il fallait acheter quand il y a le pic d'incertitude. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire, nous. Là, maintenant, je pense qu'on se dirige vers une économie, enfin, en tout cas, une visibilité un peu plus normale. Voilà. Même s'il y a des droits de douane, Il y a beaucoup de créativité, hein. Donc on arrive toujours à contourner d'une manière ou d'une autre. Ensuite, les devises aussi.
Enfin, on arrive piloter. À contourner, mais bon, je veux dire, les Américains vont pas produire des t-shirts qui sont faits au Bangladesh, quoi.
Non, mais je pense que 10%, si vous voulez, c'est tout à fait.
Mais 10%, c'est le tarif des copains.
Oh, ouais, mais je pense que c'est, enfin.
Ça sera plutôt 15-20% pour des pays comme le Bangladesh ou pour le Vietnam.
Par contre, ça peut être très impactant pour certains secteurs, certaines niches. Comme on prend pour le deal américain, pour le deal en britannique, là, ben, c'est vrai que sur le secteur automobile spécifiquement, là, il y a un soulagement. Donc, voilà. Donc, il y a la macro, puis il y a la micro.
On se retrouve en deuxième partie de l'émission, justement. C'est une bonne transition, Pierre, pour savoir quel est l'impact sur les marchés. Est-ce que, justement, c'est le moment d'acheter ou pas? Quelles actions acheter? Quelle allocation d'actifs? Et puis, le top 3 des gérants et le top et le flop de nos invités.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission avec Christopher Dembick, Stéphanie Moget, avec Wilfried Galland, que vous voyez pour la dernière fois, regardez-le bien, avec Pierre Chang, donc il va prendre sa place toutes les semaines, puisqu'il veut sauver la France, et la France a tout pour réussir.
Vive la France.
Vive la France. Allez, on passe tout de suite au marché. Bon, oui, les nouvelles étaient meilleures, mais si on regarde les performances sur la semaine, pour l'instant, c'était pas terrible. Bon, c'est vrai que l'annonce du deal sur la Grande-Bretagne, c'était en toute fin de semaine, donc il n'y a pas eu encore l'impact. Par contre, si on regarde depuis le début de l'année, on est pas mal. Nous, on est toujours avec 4,25% sur le CAC, Eurostock 8%, bon, le Nasdaq 7% de baisse. Bon, alors c'est vrai que quand on regarde tout ça, on peut faire cocorico pour l'Europe et pour la France. C'est quand même un phénomène de rattrapage par rapport à l'année dernière, mais ne boudons pas notre plaisir. La question, Pierre, je reviens vers vous, puisque vous avez déjà évoqué le sujet sur les marchés. Donc, j'entends ce que vous dites. Il va y avoir du de-risking, c'est-à-dire qu'on a une situation sur laquelle on a une visibilité qui est un peu meilleure, donc moins d'incertitudes, d'accord? Mais on a une certitude, c'est qu'il va y avoir des droits de douane. Ces droits de douane vont peser comme un impôt sur les pays et sur les sociétés, et que si on intègre ça au résultat des entreprises, c'est là que j'ai du mal à y voir. C'est-à-dire, je me dis d'un côté, je vois bien ce que vous dites, la notion de risque, mais je vois bien de l'autre côté qu'il va y avoir quand même des résultats d'entreprises qui vont être affectés. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur les marchés ?
Moi, je pense que ça va être un marché qui évolue latéralement. Donc, voilà, avec quand on est trop haut, ben ça, il y a des nouvelles macroéconomiques qui peuvent ne pas être bonnes, hein, comme les tarifs douaniers, mais ça peut être autre chose. Hein. Et puis dès que ça ralentit un peu trop, tout de suite là, les banques centrales vont commencer à envoyer des messages positifs. Trump va aussi sans doute.
Encore faut-il qu'elle puisse le faire. Pour ça, il faut que l'inflation baisse.
Oui. Oui, mais non, mais
d'accord, après, ce qui n'est pas le cas aussi.
Non, mais quand si les marchés baissent, ça veut dire aussi qu'il y a des perspectives économiques un peu moins bonnes. Ouais, donc, l'inflation, ben, ça se calme un petit peu. Voilà. Donc, je vois bien des marchés en dents de scie. Donc, dans des marchés en dents de scie, il faut.
En dents de scie, mais avec, dans un tunnel, quoi.
Dans un tunnel, mais assez large, quand même. Donc, d'accord. Je sais pas, si je prends le CAC 40, par exemple, je pense entre 7000 et 8300 points. Oui, donc, ça fait quand même un canal large dans lequel on évolue et donc pour quand on est un investisseur actif.
Donc, vous dites plutôt une stabilité avec une agitation à court terme, quoi, c'est ça?
Moi, je pense que le phénomène de démondialisation, globalement, c'est pas bon pour le business, fondamentalement. Donc ensuite, après, il y a du bruit de court terme, là, comme tous ces accords, etc. Mais globalement.
Mais là, si on prend justement un peu de recul, Stéphanie, si on prend juste un peu de recul, comme dit Pierre, par rapport au bruit, et qu'on se dit, globalement, OK, il va y avoir des moments. Si, le jour, évidemment, quand on va annoncer un deal avec la Chine, quel qu'il soit, il va y avoir une hausse des marchés, on va célébrer tout ça, ça sera tous les deals seront faits. Mais une fois que la poussière sera retombée, il va rester des droits de douane.
Il va rester des droits de douane, il va rester un euro-dollar qui n'est pas du tout le même qu'au début de l'année. Donc pour toutes les valeurs exportatrices européennes, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui n'est pas positif. Après, il va y avoir aussi une zone euro qui s'est vraiment remobilisée et qui a en son sein quand même le plus gros marché mondial de consommateurs solvables. Donc on a aussi quand même une base de sociétés européennes très solide. On a d'autres zones au niveau du monde, le Japon, l'Inde, qui sont des très grosses zones économiques et qui, à mon avis, ont quand même beaucoup de potentiel. Donc, les sociétés, effectivement, elles ont ce problème des droits de douane, mais c'est loin d'être le seul, finalement. Et c'est un peu, finalement, depuis toujours leur boulot que de faire les ajustements entre l'échange, les droits de douane, quel est le potentiel de telle et telle zone. depuis le Covid, elles font que ça, hein, j'ai l'impression, dans ces sociétés.
Si, donc, peut-être possible pour rebondir. Les, ouais. La plupart des entreprises exportatrices disent, de toute façon, aux États-Unis, s'il y a des droits de douane, on montera les prix. Donc, OK, donc, elles vont monter les prix. Peut-être que la demande en face va faiblir légèrement, oui. Mais globalement, je veux dire, ça sera, il y aura une partie quand même qui sera compensée. Ensuite, ce qu'on attend, c'est que Trump vote une grande loi fiscale, voilà, des allègements fiscaux. Et ça pourrait être l'élément qui compense et qui donne une nouvelle jambe de hausse sur les marchés. Voilà. Mais après, là, on est encore, qu'au début de cette histoire de fiscale.
Wilfried, vous comprenez, j'ai du mal à voir clair sur, en contrebalançant tous les événements. Ouais. Je vois pas en fait qu'est-ce qui va l'emporter sur le reste.
Bah justement, effectivement, vous le dites justement, il y a ces trois éléments qui pèsent en général sur les marchés. Hein. Il y a la macro, la micro et le contexte de liquidité. Et pendant longtemps, on a eu tout dans le bon sens. Ouais. Il y a quelques semaines, on avait tout dans le mauvais sens, hein, que ce soit la macro, on avait des doutes sur la capacité des entreprises, en particulier les géants de la cote, à s'en sortir, et on avait des doutes sur le soutien possible des banques centrales. Là, aujourd'hui, effectivement, on a un doute sur l'environnement de liquidité. Comment est-ce que les banques centrales vont réagir par rapport à ce que disait Jérôme Powell, c'est-à-dire à la fois une baisse de la croissance et donc potentiellement une hausse du chômage, mais aussi peut-être une hausse de l'inflation. Comment je vais faire ? Lui-même n'en sait rien. Des perspectives macro qui semblent être au moins maintenant à peu près stabilisées, même si c'est quand même très compliqué, mais peut-être qu'on a un plancher, et des actualités d'entreprise qui ont été globalement, sur la saison des résultats, plutôt rassurants, en disant on arrive effectivement
donc,
à s'en sortir.
On se dit quoi sur l'avenir de la bourse? On se dit comme Pierre et comme Stéphanie un peu, c'est-à-dire de dire bon, il y aura des opportunités.
Ouais, moi je suis dans cet état d'esprit-là. Je pense qu'on est effectivement sur un tunnel de fonctionnement, un peu des marchés au ton ondulé. Moi je suis quand même plutôt positif, parce que je pense qu'on a passé le pic de l'inquiétude, et donc dès qu'on passe
le pic de l'inquiétude, Pierre, je repense à ce que vous disiez, où il fallait racheter dans le creux, d'accord, mais là vous voyez, ça allait tellement vite. Là. Les cours de la bourse allemande sont déjà à leur niveau record.
Tout va toujours très vite, en fait, sur les marchés. En fait, on sait très bien que les marchés anticipent toujours beaucoup plus vite.
Ils n'ont pas 8 coups d'avance.
Ils sont assez hauts, et c'est pour ça qu'effectivement, on va avoir cette espèce de ton ondulé au fur et à mesure que les nouvelles qui tombent sur tous les écrans vont nous agiter. Est-ce que le deal avec la Chine, est-ce qu'il va être rapide, pas rapide? Est-ce qu'il va être. Est-ce qu'on va effectivement vers des droits de douane généraux de plus de 15, 20, 30%, c'est pas impossible.
C'est pas impossible du tout.
Et là, effectivement.
C'est notre scénario, 10 à 20%.
Et là, dans ce cas-là, les marchés pourraient se dire on n'a pas été encore suffisamment loin dans la réactualisation des prix futurs, ou est-ce qu'effectivement, on est un peu dans un deal à la britannique, en disant il y a non seulement il y a un plancher et il y a aussi des exceptions.
Il a dit, le deal avec les Anglais, c'est vraiment comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, parce qu'ils ne sont pas dans la même situation de déficit.
Exactement, et ce que disait Christopher est très juste, c'est-à-dire que le sujet fondamental, mais ça nous arrive à tous de temps en temps, il faut le souligner.
Par hasard, souvent.
Mais souvent.
En tout cas,
souvent,
dans son
mais
cas.
Mais il en faut, de la chance, surtout dans nos métiers. Et en fait, on se rend compte que la clé, c'est est-ce que Donald Trump va laisser se développer les phénomènes, effectivement, de contournement de ces droits de douane qui ont généralement lieu par des pays différents, etc. Auquel cas, on va dire, tout le monde sauve la face et on va réussir à s'orienter vers une croissance plutôt positive. Ou est-ce qu'il est vraiment dans une posture extrêmement idéologique où il veut fermer tous les échappatoires? Auquel cas, ça pourrait quand même être beaucoup plus compliqué. Donc, beaucoup de volatilité, je pense.
Sur la bourse, Christopher?
Alors, moi, je suis d'accord sur le scénario du tunnel. J'ai plutôt tendance à considérer que le pire sur les droits de douane a déjà été pricé.
Okay.
Alors, ça va prendre du temps, effectivement, mais je ne pense pas que ça va être compliqué. Le seul élément un peu d'incertitude, c'est quand même l'évolution du dollar. Il ne faut pas oublier, quand même, dans le programme, et Trump me le mentionne souvent, le dollar est trop fort. Il s'est certes dévalorisé un tout petit peu, mais pas tant que cela. Hein.
Notamment,
quand on regarde le dollar index, on reste quand même à des niveaux qui sont très élevés. Est-ce qu'il y a un sujet d'évaluation, donc et pas dépréciation, d'évaluation du dollar qui pourrait arriver sur la table?
Mais comment on peut dévaluer le dollar? Comment Trump peut dévaluer le dollar? Comment c'est possible? C'est-à-dire, je ne vois même pas la mécanique. Alors, je me rappelle, parce que je suis très vieux, les accords du Plaza, et tout le monde a été d'accord. Je veux dire,
vous n'aurez pas de... Enfin, il y a des tentatives aujourd'hui. Ce qu'on sait dans les accords commerciaux qui sont négociés en Asie, il y a la question du change et il y a les discussions d'intégrer une clause de dépréciation des monnaies locales. Donc, ça peut être via cet aspect-là et c'est un peu le meilleur des scénarios parce que c'est concerté. Après, on peut toujours tout à fait avoir plutôt quelque chose qui n'est pas concerté et une décision un peu unilatérale de Trump de dire, nous, aujourd'hui, on considère que le dollar est trop fort.
Mais comment vous faites ça?
Ça se produit un tout petit peu déjà, c'est-à-dire vous créez de la méfiance à l'égard des investisseurs étrangers sur tous les actifs.
Ouais, mais derrière, vous tapez un taux d'intérêt de votre dette qui flambe et donc un
ce qui est un exercice difficile,
super difficile.
Mais derrière cela, il peut toujours se dire la Fed va acheter mes bons du Trésor, ce qui va limiter effectivement l'envolée sur
c'est quand même là c'est vraiment très compliqué. Jouer avec
effectivement.
Le
mais en revanche, je pense qu'il y a quand même un sujet, si c'est pas d'évaluation, ouais. En tout cas d'appréciation du dollar. Et nous ce qui est complètement inhabituel chez Pictet, on met en avant notamment le fait d'envisager des couvertures de change tactiques, alors que d'habitude on mettait jamais ça
c'est
en avant.
C'est quoi une couverture de change tactique?
C'est-à-dire avoir une couverture de change juste disons sur la période de l'été. Pourquoi la période de l'été est rentrée? Parce que après on se rapproche de plus en plus de la période des mi-termes. Trump n'a aucune raison de créer un chaos monétaire à ce moment-là. S'il veut faire quelque chose, c'est dans les mois à venir. Sinon, il ne le fera pas, en tout cas, dans la durée, dans les prochaines années.
Il faut savoir que la politique de change fait partie des attributions du Trésor américain. Mm. Et donc, il est dans les outils qu'il a à ta disposition. Effectivement, c'est extrêmement difficile et extrêmement compliqué de ne pas générer un chaos, y compris en termes de taux d'intérêt. Mais il peut mettre à contribution le Trésor américain dans le cadre d'une politique de change.
Et en faisant comment?
Bah, vous émettez ou vous vendez de la dette de façon massive.
Mais les taux montent.
Oui, c'est d'où le problème. Mais en fait, vous avez, il y a quand même des leviers, mais avec des inquiétudes et des inconvénients qui sont très forts.
Oui, ça, c'est intéressant parce que sur le dollar, alors là, c'est vraiment pas clair du tout. Alors justement, dans ce contexte-là, je vais vous poser la question qui tue, c'est quelle est l'allocation d'actifs que vous conseillez et quels sont les placements que vous conseillez, Stéphanie?
Alors, d'abord, comme toujours, diversifier ses placements. Donc, aujourd'hui, dans ce scénario un peu de tunnel, auquel j'approuve, on doit avoir quand même du cash. Mais même si aujourd'hui, les marchés dans l'ensemble, je pense, les gens ont peu de cash parce qu'ils avaient peur de rater le rebond, à mon avis. Donc, c'est d'avoir une exposition Europe qui est quand même plutôt majoritaire parce qu'on a cette incertitude sur le dollar, hein, effectivement, qu'on a une zone qui, certes, a des hauts et des bas, mais qui fonctionne bien. C'est de diversifier aussi, évidemment, sur des zones géographiques Asie, Inde. Alors, Inde, c'est aujourd'hui la plus grande, enfin, c'est une des très grandes zones économiques. On est très peu représenté dans les grands indices mondiaux, l'Inde, et je pense qu'on a quand même là une belle croissance. Un peu de Japon. On ne peut pas se prémunir de ne pas avoir du tout d'or. Hein. Je pense que l'or, aujourd'hui, bon, on ne va pas en mettre 10%, mais peut-être 5% dans son portefeuille, c'est quand même important. Alors, l'or, on l'a vu, ça fait 3005, 3002, 3003. Bon, je pense qu'on peut avoir quand même une bonne tenue de l'or. Un petit peu de crypto. Les cryptos viennent de remonter. On peut jouer ça par le biais de trackers. C'est pas très facile d'en avoir.
Moi, j'en ai pas. N'essayez hein. Pas la peine de m'enlever. J'en ai zéro. Non, je vois des mecs qui me suivent, mais non, j'ai zéro.
Si jamais on a un accord sur la Chine, même si je suis d'accord avec vous, ça risque de prendre du temps, peut-être simplement rejouer un peu les grandes valeurs chinoises. Ça peut être pareil, hein, en pourcentage raisonnable, une manière de diversifier son portefeuille et de jouer comme ça une croissance mondiale qui va être malgré tout. Sans doute pas si mauvaise.
À la financière de l'échiquier, qu'est-ce que vous conseillez en allocation?
Nous, déjà, une bonne exposition action, déjà, ouais. 60%, on pourrait dire. Mmh. Là-dedans, il y a beaucoup de dossiers qui ont beaucoup baissé ces dernières années, donc dans des secteurs comme, par exemple, les spiritueux ou tout ce qui est énergie renouvelable également, au sens large, hein, pas forcément juste les producteurs d'électricité.
Spiritueux, il y a une valeur chère.
Non, voilà, donc il y a des secteurs qui sont totalement délaissés, je trouve, en ce moment. Donc ça peut être une bonne source pour investir en ce moment. Donc nous, c'est ce qu'on fait. En ce moment, clairement, on réduit les positions de cash. On était sur entre 5 et 10% sur les fonds. Là, maintenant, on est passé nettement tout de 5%.
Et la partie obligataire.
On peut mettre 30% d'obligataires et 10% de fonds performance absolue. Voilà, donc ça,
et de l'or un peu ou pas?
Bon, moi, je ne suis pas un grand fan de l'or, mais ça a bien marché ces derniers temps. Je trouve ça un peu haut, mais bon, après, je ne suis pas
spécialiste. Vous conseillez l'or chez vous?
On en a un petit peu dans les fonds diversifiés, on en a toujours un petit peu.
Mais sans plus. Ouais. Vous avez quelque chose à dire sur l'allocation? Outre
les actions, on met en avant le crédit au rendement européen.
Okay.
Finalement, pas d'accident particulier, ça se finance bien, même sur le temps long, sur les 20-25 dernières années, c'est un bon taux de rendement, donc ça peut être intéressant en termes de diversification pour pas uniquement avoir des actions.
Donc ça, ce sont des fonds qui investissent
sur les entreprises.
Dans des emprunts d'entreprises qui sont un tout petit peu plus risqués que les usual suspects, les grosses boîtes.
Mais pas un taux de défaut qui soit alarmant du tout à l'heure actuelle, c'est la normalisation.
C'est pas ce qu'on appelle des obligations pourries,
non.
Junk bonds, d'accord, c'est entre les deux, c'est
ouais.
Ça
okay. Les taux aujourd'hui nous permettent d'attendre et le risque est relativement payé correctement sur toute la partie obligataire. Ça, c'est pour les épargnants, c'est plutôt rassurant.
Bonne idée. Allez, top ou flop de la semaine pour vous, Pierre.
Alors moi, c'est la.
C'est le top, c'est la France.
C'est la panne. C'est la panne d'électricité en Espagne. Donc c'est vrai que bon, ça a fait beaucoup de bruit. On n'a toujours pas la raison. Hein, donc on ne sait toujours pas pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. Donc nous, notre point de vue, c'est certains disent que c'est parce que le mix électricité est trop pondéré sur les énergies renouvelables, ouais. Et donc ça crée des intermittences. Bon, nous, pour nous, c'est le problème n'est pas le mix, c'est surtout l'infrastructure qui est autour de ce mix. Voilà. Et donc là, dans les réseaux de distribution et de transmission d'électricité, il y a beaucoup d'investissements à faire. Et donc en Europe, on a la chance d'avoir plusieurs valeurs qui sont cotées sur ce secteur-là. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis ensuite, tout ce qui est stockage. Parce qu'on a beaucoup privilégié ces dernières années en Europe l'équipement de solaire ou d'éolien, mais on n'a pas mis le stockage qui doit aller avec, logiquement. Et le stockage permet justement d'encaisser quand il y a trop de production ou pas assez, de pouvoir redistribuer. Donc là, il y a des investissements significatifs à faire.
Donc c'est un flop et un top.
Voilà, c'est un peu c'est une tendance qu'il faut pouvoir capter dans les fonds. Voilà.
Quel équilibre, Marc.
Oui, oui.
En fait, moi, le flop, c'est le Bourbon.
Ok.
Quand je regardais les plans de la Commission européenne pour réagir aux droits de vote de Trump, je vois le Bourbon du Kentucky, Harley Davidson. En fait, on reprend exactement le même mode d'emploi qu'en 2018. Trump essaie de faire quelque chose de complètement nouveau, et nous, on reprend tout ce qui a été fait il y a 7 ans en disant ça va bien marcher. La dernière fois, ça avait correctement marché, même si ça avait été difficile.
Et pourquoi ça marcherait pas ?
Bah, en fait, Trump désormais a une approche qui est beaucoup plus générale et qui effectivement veut renverser un certain nombre de flux financiers. Donc il faut s'attaquer à des choses qui sont beaucoup plus fondamentales que ça. Là, on est juste en train de mettre un énorme drapeau rouge sur tout le secteur des vins et spiritueux en Europe, et on sait que la France, même si elle a tout pour réussir, elle est quand même très très bien exposée là-dessus, quoi.
Stéphanie ?
PSG en finale.
Ah oui, non, sûr, ça. Ouais,
voilà, chose importante.
C'est peut-être le déficit de la balance commerciale de la France, hein, avec moins 2,6 milliards, avec malgré la baisse du pétrole, les hydrocarbures qui sont numéro un coupables dans ce.
Mais c'est pas grave, on s'appauvrit,
mais
c'est pour.
Voilà, et alors là-dedans, quand même, on peut voir deux choses. On pensait qu'effectivement, c'était l'effet droit de douane, Trump, mais en fait, pas du tout. Quand on regarde le détail, c'est vraiment en fait la Chine qui, ça y est.
C'est l'effet médiocre.
Effectivement, on peut-être, on exporte moins vers les US, mais plus vers chez nous. Et aussi, au sein même de l'Europe, en fait, nous, la France, on va importer des produits agricoles, de l'énergie, etc.
Sur les 20 milliards de déficit, oui, du premier trimestre, il y a 11 milliards avec la Chine. C'est complètement dingue. C'est hallucinant.
Et malgré les effets d'anticipation qu'il y a pu y avoir sur la maroquinerie, la cosmétique, etc.
Par contre, pour compléter, la France a une balance des services qui est structurellement excédentaire.
Ouais, bon, allez, ça va. Eh non, vous pouvez
pas parce qu'on focalise sur la balance commerciale. Mais comme Trump, hein, Trump il focalise sur la balance commerciale, mais la balance des services est très excédentaire.
Non, mais vous pouvez être pro-France, mais pas chauvin à ce point-là, quoi.
Mais si, parce que en fait, quand vous avez beaucoup de touristes qui viennent chez vous, vous avez une balance des services qui est largement excédentaire.
Intéressant. Ouais. Christopher.
Je finis sur une note sucrée. Le prix de la pistache, d'accord, qui a augmenté.
Le bourbon, la pistache.
Oui, voyez.
Vous allez là.
Vous allez comprendre quand je vous en parle.
C'est la paire.
Qui a augmenté depuis fin 2024 d'à peu près 20%. C'est lié à un phénomène qui est le chocolat de Dubaï. Vous avez peut-être goûté.
Évidemment.
Qui est très sucré. Et des influenceurs, effectivement, qui l'ont popularisé. Pourquoi je vous parle de la pistache? Parce que finalement, vous avez des tensions sur les matières.
On se posait un peu la question.
Exactement. Je vais répondre, vous voyez.
C'est le pull vert.
C'est ça. Ouais. Exactement. Mais j'aime bien le vert. Tout le monde n'aime pas ici.
Je déteste.
Exactement. Le prix de la pistache, vous avez aujourd'hui une tension sur les prix des matières premières agricoles qui est extrêmement importante. La FAO montre qu'on a des prix alimentaires qui sont à un point haut de 2 ans. Et ces tensions, elles sont partout. Café, cacao, etc. Et ça va être un vrai sujet. Alors bien sûr, dans l'inflation, ça se voit assez peu. Hein, ça pèse assez peu.
Donc l'inflation par la pistache, c'est la prochaine tendance.
Tout à fait, voilà.
J'y avais pas pensé. Allez, on passe tout de suite au top 3 et heureuse surprise. Stéphanie, vous êtes toujours sur le podium en 3e position derrière Eric Blaine et William Higgins. C'est bien. Hein.
Trop bien.
Ouais, vous êtes content. On vous arrête dans la rue ou pas encore ?
Pas encore. Mes enfants sont un peu déçus.
Après l'émission.
Et Pierre, vous n'êtes pas très loin d'ailleurs.
C'est vrai.
Bravo aussi. Allez, on passe tout de suite au portefeuille avec une musique qui fait peur parce que Stéphanie, vous pouvez frimer dans la rue, mais maintenant vous remettez votre titre en jeu. Donc, dans le portefeuille, vous avez du L'Oréal.
Je garde.
Vous avez du Vusion Group.
Je garde après le reclassement.
Ouais, vous avez du Ruby.
Je garde.
Vous avez du Lumibird. Je
garde.
Vous avez du GTT.
Très bonne. Ouais, très bonne.
Dassault Aviation, je regarde sur le tableau. Ouais. Vous avez du Séché.
On garde.
Vous avez du Pierre et Vacances. Du LNA Santé et de l'Exosens qui a très bien performé. Sur Dassault Aviation, vous faites quand même plus de 60% depuis le début d'année. C'est quand même assez sympa. Qu'est-ce qu'on achète ?
Alors, on va acheter trois valeurs.
Exosens, qui était la dernière valeur que vous avez fait rentrer, on est déjà à plus 40.
Tout à fait. On va acheter de l'Alibaba. J'avais du Mercado Libre que j'avais vendu, mais donc on va en remettre une valeur tech chinoise qui est un peu la plus connue. Il y a JD.com que j'aime bien aussi, mais Alibaba.
C'est pourquoi Alibaba maintenant ?
Maintenant, parce que je pense que justement, il y a eu l'effet DeepSeek. On a quand même sur la Chine, sans doute, des choses positives à venir. Et donc, c'est une des plus grandes qui fait exactement tous les mêmes métiers qu'Amazon et Co. avec le cloud, etc.
C'est une valeur qui a beaucoup souffert ?
Une valeur qui a beaucoup souffert, exactement. Alors, qui a eu un rebond, mais on est très très loin des plus hauts. Donc, on peut mettre du Alibaba en portefeuille.
Alors là, vous passez de Alibaba à Bilindi.
À Bilindi, alors là, on est sur deux spectres différents. Donc là, c'est 64 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une pépite... Effectivement, c'est une belle société française.
C'est une belle société qui déçoit jamais, en fait.
Exactement, qui vient de faire une très belle acquisition dans le leader des panels dans la zone LATAM ibérique et qui a l'objectif de faire l'ambition de faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une très belle profitabilité, plus de 20% de marge d'EBITDA. Donc, à ce
très bon management qui a fait un très bon pivot il y a quelques années vers la partie sondage et tout ça. Vraiment, c'est incroyable.
Et on se retrouve au cours de avant l'été. Enfin, voilà, il y a eu.
D'accord, ça a bien baissé.
Ça a énormément baissé et depuis, ils ont fait une acquisition très structurante. Donc à 19 euros, moi, il n'y a pas de souci avec ça. Et la troisième idée, c'est Viridien, qui est l'ancien CGG.
Vous avez compris que l'idée, c'était de venir avec une recommandation, mais ce n'est pas grave si vous voulez en faire 12.
Mais bon,
en fait, comme chez vous, surtout oubliez les règles, ce n'est pas grave. Faites vraiment, si vous voulez vous lever et partir en fait, avant la fin, tout le monde fait ce qu'il veut ici.
Qu'est-ce qu'on fait, Wilfred?
Allez-y.
De toute
Viridien, alors. Il va rester parce qu'il sait qu'il ne pourra pas rentrer. C'est comme les visas de Trump, quoi.
Exactement. Très belle société dans les services pour tout ce qui est analyse du sous-sol, avec aujourd'hui à la fois dans le pétrole, le gaz, mais aussi maintenant tout ce qui est nouvelle technologie de capture de carbone, ensevelissement, etc. Et donc Viridien a changé complètement de bilan. Ils ont tout restructuré. Ils avaient avant des bateaux qui portaient. C'est fini. Et donc ils doivent générer du cash flow cette année. Et c'est une société qui a en plus un beau potentiel dans tout ce qui est analyse de data, parce qu'ils ont en interne des très gros serveurs avec des très grosses capacités de calcul qui vont vendre pour d'autres personnes. Donc voilà.
On écoute tous religieusement.
Religieusement.
Voilà. Allez, Pierre, c'est à vous. Vous voyez, ça va être dur, un challenge à relever parce qu'il faut que vous montiez sur le podium. Vous avez du Guerbet.
Je garde.
Vous avez du Quadian.
On garde.
Vous avez du Score.
On garde.
Vous avez du Atos.
Alors c'est Atos, c'est pas le français, l'allemand.
C'est pour ça qu'on a mis deux S.
Atos Software. Ouais,
on a Euronext.
On sort de la liste Euronext.
Ah bon ?
Ça fait un parcours exceptionnel.
Ah oui.
Donc à un moment, il faut savoir aussi prendre ses profits.
Ok. On a du GTT.
Pareil, on va aussi sortir aussi.
Très beau parcours aussi.
Exactement, très beau parcours.
On a du ID Logistique.
Ça, on garde.
Et on a du Séché Environnement.
Séché, donc on partage la même conviction avec Stéphanie. Mmh. Donc là, on garde également. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on achète?
Alors, on achète la société américaine Tetra Tech.
D'accord. Vous achetez américain, vous?
Parce qu'on gère des fonds globaux.
Vous nous vendez la France.
Voilà.
Ouais. Et là, la première occasion, vous nous trahissez.
C'est un traître.
Là, j'ai beaucoup de France, comme dans le portefeuille. Donc là, aux États-Unis.
Déception.
Je suis déçu. C'est l'effet Trump. Vous avez peur, en fait.
Non, c'est un dossier qui a déjà beaucoup baissé, qui a perdu 40%.
Il veut un deal, en fait.
C'est un dossier qui a perdu 40%. En fait, eux, ce sont des ingénieurs conseils dans tout ce qui est le domaine de l'eau. Voilà. Donc, ça peut être vraiment tout ce que vous pouvez imaginer dans l'eau. Donc, eux, ils sont juste.
J'imaginerais du tout, en fait, dans l'eau.
Donc,
c'est facile.
Donc, notamment, la partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie adaptation. Donc, comment faire en sorte que les entreprises et collectivités locales s'adaptent à un climat en mutation. Donc, climat en mutation, ça veut dire de l'eau, des inondations, plein de choses, plein de catastrophes climatiques.
Donc, ce n'est pas les cours de natation pour Christopher Demick.
Non.
Ça n'a rien à voir.
Le titre a beaucoup baissé parce qu'ils sont exposés.
C'est bien, c'est qu'il reste. Il continue, Pierre.
J'essaie.
On raconte n'importe quoi. Et le gars, il continue, il est dans son couloir de nage. Il avance. Avec un air hyper sérieux.
Je continue dans mon couloir. J'en étais où d'ailleurs?
Je ne sais plus du tout.
que c'était voilà. bien.
Et donc c'était une bonne valeur.
C'est
une bonne
valeur. Non, mais attendez, je vais quand même dire juste un mot, mais.
Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau.
Il travaille avec le gouvernement américain.
Ah bah alors.
Sur bon, l'USAID en particulier, ouais. sur lequel Elon Musk a voulu vraiment tailler dans le budget. Voilà. Donc le titre s'est effondré de 40%. Et là, ils viennent de publier des chiffres où on se rend compte en fait que le business se comporte très bien. C'est un super management. Et donc là, voilà, je pense que c'est une bonne opportunité.
Donc on plonge.
Donc on garde. Voilà, on met dans le portefeuille.
Non, mais on plonge. Vous avez compris.
On plonge sur le dossier. Ouais.
D'accord. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui sera, elle, cette fois vraiment exceptionnelle. N'oubliez pas que vous pouvez me poser des questions. Oui, ne rigolez pas. D'économie ou de placement sur marc@bfmbusiness.fr. Je vous expliquerai comment un pays s'appauvrit par la balance des paiements courants. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir en replay, en podcast sur toutes les plateformes pour que nous battions notre record en 2025.